bom 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 bom. Bonjour, les papous de France Culture en piste jusqu'à 13h59. Au menu, comme un parfum de Cannes, un regard sur les affiches de cinéma et l'inventaire de nos maisons cultes, réelles ou fictives, par Jean-Bernard Pouy, Ricardo Mosner, Lucas Fournier et Odile Conseil.
Je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique avec la maison bleue accrochée à la colline, celle où on vient à pied.
Au secours.
On ne frappe pas.
Non, non.
Je ne voulais pas de chanson.
Mon Dieu, qu'il fait beau. Oh là là. Nous passerons du ciné au théâtre avec le droit de réponse du petit chat d'Agnès, version Hervé Le Tellier. Viendra l'heure des inventions de Léonard selon Jacques Jouet. Un retour aux demeures qui nous font rêver et le DLA pour un piège littéraire posé par Lucas Fournier aux experts Almassy, Minet, Delbourg et Valais.
Il prononce Cerdan comme si c'était le boxeur. Il faut dire aux gens que ce n'est pas une indication d'époque.
Non, c'est Cerdan.
Donc à un moment, j'ai pensé que ça pouvait détourner les auditeurs.
Un texte d'Édith Piaf.
Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr. C'est le podcast pendant un an. Abonnez-vous, c'est gratuit et si simple. Merci de votre écoute fidèle, de votre affection toujours renouvelée. Et bienvenue dans le club à ceux qui nous découvrent. Françoise Tressard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Et c'est parti avec Jean-Bernard Pouy en pole position, JB pour les intimes. Saint-Andre, monsieur Pouy, un fou bougon pas, un type violent. Mais de temps en temps, quand il pousse un coup de gueule, on l'entend très très loin.
Non, je suis pas violent, mais je peux tuer.
Ah ben voilà, et c'est ce qu'on appelle la colère froide. Alors là, vous tuez quelle sorte d'idée ou de choses? Vous êtes contre quoi?
C'est un rapport avec le cinéma, mais je tue les affiches de cinéma.
Ah, vous n'aimez pas?
Non.
Ah bon?
C'est pas que j'aime pas, c'est que je déteste ça.
Pourtant, il y a souvent un graphisme magnifique. Enfin, il y en a qui sont belles. Jamais?
Plus jamais. Alors, c'est fini, ça.
Non, mais dans les années 30.
Oui, mais je vis en 2016, hein, donc les années 30.
Ah bon? Ah oui, évidemment, c'est une question d'époque. Allez, poussez votre coup de gueule, votre coup de colère.
Bon, je ne vais plus au cinéma et je ne m'en porte pas plus mal. Ça me fait 3 heures par jour de plus pour lire et ça m'économise pas mal de pizza, car je ne participe plus à la fameuse trilogie Pizza Ciné 1664, cette dernière n'étant pas l'anniversaire d'une fameuse bataille. Je ne vais plus dans les salles obscures, mais je continue à me promener dans les rues et je reste en permanence agressé par les affiches de cinéma. De plus en plus, je hais les affiches de cinéma. Car fini les belles peintures montrant Clark Gable sur fond de nature en feu, ou Ava Gardner, tout poumon dehors et chevelure octopodique, ou bien Robbie le robot, translucide et luminescent sur fond de barbelé, ou encore Dracula, se découpant sur la nuit transylvanienne. Les artistes, anonymes, et les illustrateurs tout aussi inconnus ont disparu au profit de photographies tirées plus ou moins des bandes annonces.
C'est vrai.
Le problème est qu'une bonne moitié de ces affiches représentent, généralement en gros plan, des mecs, des mectons, des durs de durs, un flingue à la main. Un gros de flingue, un sombre, un automatique. Comme si c'était une évidence dans laquelle chacun se reconnaissait. Même aux États-Unis, il ne faut pas pousser, les Pékins ne se promènent pas tous mâchoire serrée, œil noir, barbe naissante, pectoral comprimé dans un blouson impeccable, un beretta au bout du bras. Comme il ne vise pas celui qui regarde l'affiche, il pointe, hors champ, un malheureux qui va bientôt comprendre que la vie ne tient qu'à un fil et que l'on court toujours moins vite qu'une balle de fusil. Mais que fait la police? Et où est l'état d'urgence? Ces affiches terrifiantes, se multipliant à chaque coin de rue, sont placardées théoriquement pour inciter le spectateur lambda à aller au cinoche, se faire malaxer le mental. Ou bien, pour le rassurer, oui, lui aussi, a un sexe aussi puissant qu'un Colt Python.
Ah.
Ou plus secrètement pour l'habituer. Ma foi, bientôt, partout, il y aura des hommes armés sur le boulevard, la Kalachnikov au bout du bras. Il y a déjà l'armée. Moi, de plus en plus, je me sens cerné, en danger. Je fais attention en tournant au coin de la rue. je me surprends à inconsciemment ne plus me placer dans la trajectoire de tous ces tueurs de papillons en puissance. Je fais attention de ne pas croiser le regard de tous ces méchants, on ne sait jamais. Au moins avant, pour les westerns, les affichistes préféraient peindre des chevaux et des cactus au lieu de malfrats, la carabine à la main. Il valait mieux affronter le regard vachard de Kirk Douglas que celui de son arme. Du coup, dans la rue, je tourne mes regards vers les affiches, tout aussi perturbantes, mais beaucoup moins mortifères, de femmes peintes en or, vantant des parfums que je ne pourrais jamais acheter, ou de brunettes aux yeux pétillants, porteuses de bijoux valant au moins 3 de mes salaires. Tous ces portraits sont loin, très loin d'un quelconque réel, ils ne m'agressent pas. Je n'aime pas ces affiches, mais elles me perturbent bien moins que celles du cinéma dit polar, d'action, baston ou autre. Je ne sais plus qui disait que quand il entendait le mot culture, il sortait son revolver. Moi, dès que j'en vois un de revolver, je change de trottoir. Quelquefois, ce n'est plus une arme de poing que tient le débile en question, mâchoire toujours serrée et barbe de 3 jours. C'est une mitrailleuse, plus proche d'un canon 75 que d'une sulfateuse à flitox. Ça ne ressemble pas à ce que l'on peut vivre à tout instant, et ça nous ramène immanquablement aux jeux vidéo qui dépassent tout, question violence irrationnelle. Et les publicitaires devraient se rendre compte qu'en agissant ainsi, en faisant peur aux chalands, ils ne lui donnent pas envie d'aller vibrer à ses exploits incroyablement crétins et coupables. Ils le font fuir. Mais bon, après, où va aller l'addict des écrans blancs dans les nuits noires? Va-t-il aller voir ses films qui, par affiches interposées, vont l'emmener vers un romantisme ou une mélancolie aujourd'hui un peu désuet? Toutes ces images de coupes frileux, de dos en plein vent au bord de la mer, va-t-il aller regarder ces récits proposant des groupes d'hommes éméchés, des fratries avinées bras dessus, le sourire idiot sur leur tronche de fêtard rubicon, prenant sur l'affiche toute la place, alors que derrière, floutés, des visages de femmes qui ne semblent pas vraiment contentes? Va-t-il aller patienter devant des routes rectilignes et désertes, du genre patagonien, à bord d'une bagnole assez déglinguée et sous de grands cumulus menaçants, le tout emballé dans un blouse graisseux? Non. Il va faire comme moi, rester chez lui pour se jeter tête baissée dans un roman passionnant avec, en guise de pop-corn, un bon verre de Condrieux.
Ah, évidemment, c'est plus exigeant, le Condrieux. Ah, Patrice Delbourg a l'air content.
Ah, oui.
C'est ce qu'il y a de mieux pour accompagner un bon polar.
Polar, je ne suis pas spécialiste, mais le Condrieux, je...
Ah non, mais on va pas rentrer chez soi pour regarder un polar. On va regarder chez soi pour regarder un vieux film de Bergman.
Ah, un film de Bergman. Ah, oui,
ou alors lire un bon roman de Patrice Delbourg ou de Serge Joncourt.
Quelle est votre affiche de cinéma préférée? Parce que vous attaquez les contemporaines, mais les anciennes, vous en avez aimé.
Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Le cabinet du docteur Caligari.
Ah, oui. Ah, donc ça représente quoi?
C'est tiré d'une image du film, enfin, c'est un très expressionniste évidemment. Oui. Noir et blanc, c'est une scène du film... où Caligari expose sa créature, qui est jouée par...
Ah, je ne sais pas, je n'ai pas vu ce film.
Eh bien, Françoise.
Non, je ne l'ai pas vu, celui-là. J'ai un trou, je suis désolée, vous Veidt. Aussi. Pardon.
Conrad Veidt.
Ah, d'accord.
Le grand acteur du muet.
Mais Françoise n'était pas née.
Non.
Merci de le rappeler. La musique de Rebecca d'Alfred Hitchcock. On a tous, dans un coin de nos têtes, des maisons réelles ou fictives, 4 murs, un toit, un balcon, avec vue sur la littérature, la peinture, le théâtre, le cinéma. Des maisons qui hantent nos mémoires, nous font soit rêver, soit frissonner. En tout cas, impossible de les oublier. Alors on va dresser l'inventaire papou de nos souvenirs de demeures préférées. Avec Odile Conseil, Jean-Bernard Puy, Lucas Fournier et Ricardo Mosner. Et c'est à vous, Lucas.
Ah, moi, j'aime le 10 Downing Street.
Oui,
vous voyez, c'est chic, c'est british, c'est classe.
Oui.
Parce qu'en France, on dit le locataire de Matignon, comme si on répondait à une petite annonce immobilière. Matignon qui n'est pas avenue Matignon. non. qui est même de l'autre côté de la Seine. Mmh. Tandis que 10 Downing Street, bah, vous pensez à Churchill, à un Bobby, à une cabine de téléphone rouge, Westminster est à deux pas. La plus grande puissance du Commonwealth loge dans une petite maison discrète d'une artère paisible. Au fait, vous savez ce qu'en anglais « Downing » signifie ?
Non.
Non.
Attachez vos ceintures, ça signifie un atterrissage forcé.
Ah, ah oui.
Et chez nous, en politique, on a des parachutés.
Odile, attirée par l'Angleterre, elle aussi ou pas ?
Non, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique avec la maison bleue accrochée à la colline, celle où on vient à pied.
Au secours !
On ne frappe pas.
Non, non.
Bon, alors on irait le sud.
Je ne voulais pas de chanson.
Mon Dieu, qu'il fait beau.
Oh là là là. Mais alors, quand j'ai découvert il y a quelques années, lors d'un voyage pèlerinage que Maxime Le Forestier a fait à San Francisco, que cette maison était dans une rue au milieu d'autres maisons, j'étais un peu déçue. Parce qu'en fait, je m'étais toujours imaginé qu'elle était solitaire au milieu d'un pré semé de fleurs en entendant la chanson.
Non, ils ont construit. Comme ils savaient que c'était Maxime
tout,
Le Forestier.
Tout en sachant parfaitement, autour. Évidemment, dans un autre coin de mon cerveau, je savais parfaitement que San Francisco est une grande ville et que les maisons plantées au milieu des prairies ne doivent pas y courir les rues.
Et pourtant, ça vous a fait rêver et ça continue.
Tu aurais pu choisir la ferme du bonheur de Claude François.
Oui. Aussi... J'ai hésité beaucoup.
Ou la petite maison dans la prairie. Non
aussi, pareil. Mais elle est vraiment dans une prairie.
Jean-Bernard Pouilly.
Alors, deux maisons modernes.
Ah. Oui.
La maison imaginée est construite par Malaparte. À Capri, que ceux qui n'ont pas vu de près peuvent voir dans
le mépris,
dans le mépris de Jean-Luc Godard.
Ah oui.
Un peu plate et rose, comme un animal tapis sur un éperon rocheux, au-dessus d'une mer bleue de Prusse. Quand on la découvre, on se demande toujours comment on y accède. Et on se doute que ça doit être galère pour faire les courses dans cette baraque. La deuxième est la célèbre villa un peu futuriste, inspirée par Frank Lloyd Wright, que j'ai jamais vu de près, sauf dans Zabriskie Point, le film d'Antonioni, où l'on ne sait pas si c'est la vraie ou un décor. On le sait seulement quand, à la fin, elle explose totalement et, il faut dire, magnifiquement.
Bon, à voir, Lucas Fournier.
L'utopie, ce sont les châteaux de Louis II de Bavière, et oui. Notamment le fameux château de Neuschwanstein, qui inspira Disney pour son dessin animé La Belle au bois dormant. Alors c'est un rêve, mais c'est un rêve en toc, plein de Chinois d'ailleurs. Et qu'on visite à la chinoise. Alors vous êtes sur une sorte de tapis roulant culturel, les temps modernes, un sprint de pièce en pièce, une photo, une conférence de 19 secondes, une autre pièce, une photo, 19 secondes, etc. En 35 minutes, vous faites le tour des 200 pièces avec les Chinois. Alors je pourrais avoir détesté, mais non. Car il suffit de s'écarter pas loin, quoi, de 3 mètres, 4 mètres, de laisser passer la longue marche des touristes chinois et de se laisser glisser sur un sentier à flanc de montagne. Le château, un lac entre les branches. Vous rêvez de voir surgir Helmut Berger. Et vous pensez à ces vers d'Apollinaire. Un jour, le roi, dans l'eau d'argent, se noya. Puis, la bouche ouverte, il s'en revint en surnageant. Sur la rive, dormir inerte, face tournée au ciel changeant. Et à ce moment-là, vous entendez les violons du crépuscule des dieux.
Vous étiez en famille ou vous étiez tout seul pour la visite ? Il faut y aller accompagné.
Ça, c'est une question un peu indiscrète, hein, parce que ça se trouve, il était avec...
Avec des millions de Chinois.
À propos de château, moi, je préfère le château transylvanien de Dracula. Ah.
Celui de Polanski.
Qu'on le voit surtout dans les films de Terence Fisher. Enfin, celui qu'on voit dans les films anglais de Terence Fisher. Toujours le même décor, les tours sinistres recouvertes d'un peu de neige... Les interminables et résonnants escaliers de pierre, les lourdes portes grinçantes aux marteaux en forme de monstre, et surtout les feux d'enfer dans la grande cheminée ancestrale.
Igor.
Ricardo Mosner.
Dans l'encyclopédie Universitas, que j'avais, une image en double page donnait à voir avec moult détails un abri avec un soldat et tous ses accessoires pendant la guerre de 14. C'est une gravure, mais tellement réaliste que l'on aurait dit une photo. Les soldats étaient vraiment à l'abri. Il avait tout, l'arme, les munitions, les réchauds, les provisions. Il était super protégé. Cette tranchée molletonnée était chaleureuse comme le ventre d'une mère. Dans mon enfance, pour m'endormir, je me fabriquais cette tranchée dans ma tête et dans ma couette. Et je pionçais comme une souche.
Il y avait déjà des couettes chez vous en Argentine quand vous étiez petit.
C'est en Argentine qu'a été inventée la couette.
Ah, la couette. La couetta.
Je suis pas si vieux que ça, évidemment.
Ah non, 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 mais je pensais que les couettes, la mode des couettes était assez récente, quoi.
Bon, un char, des couettes, c'est un poncho.
Odile.
Oui, une maison que j'aurais beaucoup voulu voir, c'est celle de En pain d'épices, de Hansel et Gretel. Oui.
J'en étais sûre. Alors... C'est son genre, ça.
Non, mais... ouais, j'ai un côté conte de fées. Pour moi, c'était vraiment un grand mystère, parce que d'abord, j'imaginais pas du tout comment on pouvait construire une maison avec ce matériau que je ne connaissais que sous la forme de fines tranches dans un emballage en plastique. Et je ne comprenais pas non plus pourquoi les deux enfants commençaient à dévorer cette maison, parce que je trouvais que le pain d'épices, ça n'était pas bon.
Ah, c'est vrai, ah, oui, je partage, ah, oui. moi aussi. Oui.
Le pain d'épices industriel, c'est pas bon. Cela dit, le vrai pain
d'épices... Oui, avec des morceaux de sucre, croquant, évidemment. Vous avez quelque chose
sur... Oui, parce que moi aussi, j'ai un souvenir avec Hansel et Gretel, le conte de Grimm.
Ricardo.
En Argentine.
Non, oui, 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 évidemment.
Sous la couette.
Mais oui, presque, parce que dans la maison avec les pains d'épices, avec des gâteaux, fenêtres en sucre, qui après se révèle être un macabre cachot, un donjon sadomasochiste, m'a beaucoup impressionné, mais pas tant pour la duplicité du lieu que pour l'effrayant exorbitation des yeux de ma mère quand elle me racontait cette histoire. Après, j'étais paniqué, je pouvais plus dormir.
Ah oui.
Parce que normalement, le souci, il était déjà un peu en état d'extase. Alors, quand elle me racontait ça...
Les yeux de votre maman ?
Ouais, ouais, ouais.
On est content de ne pas avoir eu la même.
L'œil était dans la chambre et regardait Ricardo.
Et il disait... Les petits doigts.
Lucas Fournier.
Celui-là, je parie que vous l'avez tous sur votre liste. C'est Manderley.
Ah.
Non, bon. C'est la résidence mystérieuse de Rebecca,
l'héroïne
du film d'Hitchcock, d'après le roman éponyme. Alors, on dit tout le temps éponyme maintenant, parce que ça
veut dire quoi, éponyme ?
Ben justement, c'est un prénom féminin, d'après le roman de Daphné du Maurier. Donc, Rebecca, c'est le seul film sans humour d'Alfred Hitchcock.
Ah oui,
c'est lui qui le dit lui-même.
C'est grave, oui.
Et c'est le seul film qui a obtenu un Oscar du meilleur film à Hollywood en 1941. Elle, c'est une jeune mariée, Jeanne Fontaine. Elle est la seconde Madame de Winter et il y a une affreuse gouvernante qui s'appelle Madame d'Anvers.
Et qui la déteste.
Et qui la déteste et qui vit dans le culte presque amoureux de la première Lady de Winter. Et le mari énigmatique, c'est Laurence Olivier. Voilà, alors, si vous dites simplement le mot Manderley, ben vous y êtes.
Jean-Bernard Pouy.
L'intérieur de la maison peinte dans le célèbre tableau de Van Hoogstraten, peintre hollandais du XVIIe siècle, qui s'appelle Les Pantoufles, et que l'on peut voir au Louvre. Bel éclairage, beau carrelage, sage voilage sans bariolage, un balai pour lessivage, ce n'est pas un ermitage, car au mur, il y a un tableau de Terborch, le tableau que j'ai toujours rêvé de posséder.
C'est un de vos peintres préférés, Terborch. Ricardo Meusner.
Moi, j'étais très impressionné par les maisons de l'artiste néerlandais Escher. À ces gravures avec des constructions impossibles, des escaliers aux boucles infinies, des perspectives courvilignes, bref, une géométrie tricheuse illusoire, une architecture inconstructible, la métamorphose permanente. Puis dans tous les appartements, on accrochait des affiches d'Escher, tous les amateurs des produits psychédéliques s'égavaient d'Escher, on ne pouvait pas aller boire un café sans tomber sur un Escher. Tout ceci a fini par m'élasser, et j'ai trouvé Escher casse-pied. Mais je ne peux pas me l'enlever de la tête.
Ah oui, il y a des choses qu'on n'aime pas et qui sont obsessionnelles
quand
même.
C'est ces escaliers, ces trucs qui se transforment. C'est...
T'as trouvé Escher un peu gratuit,
si j'ose dire. Non, mais tu sais, quand il y a une dispersion de l'admiration, tu perds ton intérêt.
Oh, c'est joliment dit, Ricardo. Et on vous retrouve tous les quatre un peu plus tard dans Les Papous pour la suite de cet inventaire des maisons cultes.
Prego, prego, anywhere you may go, make each day be a day full of fun. If there's a game or a girl to be won, do it with a ping, bang, pong.
A ping, bang, pong.
A ping, bang, pong. Presto, presto, do your very best, oh, don't hang back like a shy little kid. You'll be so glad that you did what you did if you do it with a ping, bang, pong.
A ping, bang, pong.
A ping, bang, pong. Columbo, take a chance, don't be a dopey or a dumbo, go around in a trance,
one step, two step, step into a new step. Live your life with a zip and a zing. You'll have the world on the end of a string if you do it with a bing bang bong, a bing bang bong, a bing bang bong.
Sophia Loren, bing bang bong.
Que tu fais? J'écoute France Culture. Mais quoi sur France Culture? Bah, les papous dans la tête, qu'est-ce que tu crois?
Et oui, et place au théâtre maintenant avec un petit personnage resté dans la mémoire collective grâce à une réplique, une seule. Et ça n'est pas beaucoup pour exister. Ce personnage voudrait bien un autre destin, d'autres apparitions sur scène. Alors, eh bien, il écrit en toute simplicité à son auteur pour se plaindre et lui demander réparation. Lui, c'est le célébrissime petit chat d'Agnès dans l'école des femmes. « Le petit chat est mort », dit-elle, à l'acte 2, scène 5. Un demi-alexandrin et c'est tout. Les suggestions d'Hervé Le Tellier dans le rôle du petit chat, il s'adresse à Molière. Dans les habits d'Agnès, Clémentine Mélois, Patrice Caumont pour interpréter Arnolf, un personnage qui lui va comme un gant. Hervé à Molière.
Monsieur, je sais bien que vous avez un nom, et même deux en comptant le pseudo, mais voyez-vous, constatant à chaque représentation que je n'en ai pas, moi, je ne vois pas pourquoi je vous appellerai Jean-Baptiste ou même Molière. Bref, je me présente, je suis Choupette, Sigismond de la Renaudière, 30e du nom, vous pouvez m'appeler Choupette. Je suis le petit chat de Le petit chat est mort, soi-même, dans votre école des femmes, oui, c'est exactement ça, acte 2, scène 5, Le petit chat est mort. Faut-il que je vous la rappelle?
La promenade est belle?
Fort belle.
Le beau jour?
Fort beau.
Quelle nouvelle?
Le petit chat est mort.
C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels. Et chacun est pour soi.
Bonjour la raison funèbre, hein?
Oui, ah bah oui, en plus,
nous sommes tous mortels.
Sinistre.
Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Ouais. Voilà, et voilà, c'est fait. Je ne sais pas comment vous serez enterré, monsieur Molière, mais je ne vous souhaite pas d'être jeté à la poubelle comme ça. C'est moche. Et puis franchement, ça vous aurait ennuyé de dire que je suis une petite chatte et non un petit chat? Bon, d'accord, la petite chatte est morte, 7 pieds. Bon, la petite chatte est morte. Et voilà, c'est nous les femmes, pour un problème des mystiches, on passe à la trappe. Bon, et donnez mon nom. Ça vous aurait ennuyé vraiment? C'était jouable? Écoutez.
Quelle nouvelle?
Choupette est décédée.
C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi.
Bon, vous me direz, Choupette est décédée. Personne ne sait qui est Choupette.
Ouais, c'est pas
ça terrible, pourrait être une suivante, une domestique. Bah oui, parfaitement la bonne, hein, c'est vrai. Choupette n'est pas a priori un nom de bonne, mais c'est pas plus ridicule que votre Cato dans La jalousie du barbouillé. Et puis ça changerait des Dorines et autres Lisettes dont vous assaisonnez vos pièces. Alors justement, regardons cette nouvelle version.
Quelle nouvelle?
Choupette est décédée.
Choupette? Mais qui est-ce?
C'était ma chatte.
Ah, il joue bien.
Ah ouais,
franchement,
ouais,
Patrice Caumont dans le rôle d'Arnolf, c'est énorme. C'est énorme.
C'était ma chatte, hélas, et grande est ma tristesse. Elle était tout pour moi.
C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi.
Ouais, c'est là qu'on se souvient d'Arditi dans le rôle d'Arnolf. C'est pas du tout pareil. C'est très différent. Bon, là encore, je vous l'ai faite courte, hein, parce que j'ai une version plus longue où je parle de ma mère, de ma naissance, aveugle, de mes petits frères et sœurs, de mes premiers pas, des puces et des tiques dont Agnès me soulage, de ma première tétée, de mes petites griffes que j'essaie sur les coussins. Et si vous vous débrouillez bien, je ne veux rien vous imposer, eh ben, ça aurait été une métaphore de la jeunesse d'Agnès elle-même. Vous voyez le concept? Et ça aurait été le moment de développer un peu mon personnage. Et croyez-moi, pour celui d'Agnès, ça n'aurait pas été un mal. Bon, ce qui pourrait être bien aussi, ça serait que je meure sur scène. Ben, je vous donne l'idée, vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Mais enfin, je vous le dis, hein, c'est un truc d'acteur, c'est vraiment la classe. Bien sûr, si je meurs, vous pourriez m'écrire quelques lignes, histoire de partir en beauté. Alors voilà, j'arrive sur scène, je suis en costume de chatte, avec un pompon rose que m'a tricoté Agnès. J'aime beaucoup le rose, je trouve que pour mourir, c'est plus gai. J'ai piqué un truc à une vieille pièce de Corneille, écrite il y a 26 ans, tout le monde a déjà oublié, c'est juste une proposition. Hein. « Oh rage, oh désespoir, oh jeunesse ennemie, ai-je aussi peu vécu que pour cette infamie? Et ne serais-je né que pour mourir si vite, à l'âge de 3 mois d'une crise d'appendicite ?» Et là, je meurs. Tonnerre d'applaudissements, le roi se lève, on rit, on pleure, c'est la gloire. Bon, il y a un petit problème de pied avec ce dernier vers.
Oui.
D'une crise d'appendicite, deux en trop, bah, je vous laisse finir, hein, c'est votre boulot. Mais c'est ça l'idée. Hein. Bon, pour tout dire, je préférerais avoir été simplement malade. Voilà, je vois pas du tout l'intérêt de mourir, dramatiquement parlant. Alors, une autre version possible.
Quelle nouvelle ?
Choupette à la diarrhée.
Choupette ?
Oh, non.
Choupette ? Mais qui est-ce ?
C'est ma petite chatte.
Etc. Hein bon.
Évidemment.
Ah ouais. Attendez, c'est un peu banal, mais ça fera rire. Le caca, ça fait toujours rire. Voyez les grands anciens, Aristophane, Plaute, Rabelais, je vous assure, ça sera un succès. Réfléchissez, monsieur Molière. Personne, mais personne ne se souviendra le petit chat est mort. Alors que Choupette a la diarrhée. Mais dans 5 siècles, on en parlera encore. Bon, et puis si quelqu'un doit vraiment mourir, pourquoi moi ? Pourquoi pas Fidèle ? Mais oui, Fidèle, le vieux chien de la tante d'Agnès. Personne n'en parle, vous pouvez vérifier, de Fidèle, dans toute l'école des femmes. Ce serait l'occasion. 5 minutes de célébrité. Fidèle serait très content de mourir à l'acte 2. Et en plus, pas besoin de donner son nom, il s'en rendra pas compte, il est sourd comme un pot.
Quelle nouvelle ?
Notre vieux chien est mort.
C'est dommage, mais quoi ? Nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi.
Franchement, c'est pas bien comme ça, hein ?
Ouais.
Moi je dis c'est bien aussi. Et puis les chiens, ils ont l'habitude de mourir dans la littérature. Regardez Argos, le chien d'Ulysse, il attend son maître 20 ans et il crève. Il est content de son sort. Oh Dieu que c'est con les chiens. Bon, écoutez, plus j'y pense, hein, le petit chat est mort, plus je me dis que vous avez écrit ça vite. Personnellement, la symbolique sexuelle lourdingue dont vous exagérez, vous chargez cet hémistiche, moi je n'y crois pas. Je pense simplement que le petit chat est mort, c'est un truc sans importance et c'est tout. Et c'est encore plus triste à vivre, croyez-moi. Alors si c'est juste un truc banal, pourquoi briser ma carrière dans l'œuf ? Mais j'ai des ambitions, monsieur Molière, et j'ai des propositions. Monsieur Charles Perrault m'a suggéré de mettre des bottes. Monsieur Gay-Luc m'a demandé de grossir un peu pour un rôle à ma taille. Et puis j'ai aussi un rôle très souriant qui m'attend dans un livre de monsieur Lewis Carroll. Bon, réfléchissez, je ne vous mets pas la pression. Mais franchement, Choupette à la diarrhée, hein ? Pensez-y, bien à vous. Choupette Sigismond de la Renaudière.
Soit. Mais moi, j'ai envie de m'adresser à un grand connaisseur de Molière, quand même, c'est Patrice Minet. On a la chance d'avoir Patrice Minet avec nous aujourd'hui, dimanche.
Oui.
Qu'est-ce qu'il pense, Molière, de cette suggestion de Choupette, la chatte ?
Voilà, je connais Molière et je connais aussi les chats.
Oui.
Voilà, donc Molière écrit aux chats.
Donc à Choupette.
À Choupette.
Ouais.
C'est Choupette, Françoise.
Oui, Choupette, ouais, Choupette, je trouve ça plus mignon, Chou,
ah
que Chou.
Ah non.
Chou, ça fait un peu chinois, quoi.
Oui, il y a ça. C'est un chat persan.
C'est assis à moi. Ça mélange.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Molière ?
Cher Choupette Sigismond de la Renardière, car c'est son nom.
Oui, bien sûr. Ouais.
30e du nom.
Il est bien connu que le rêve de tout acteur est de mourir en scène. Et vous, insigne honneur, vous mourrez avant d'entrer en scène. C'est la gloire. Choupette, vous vous imaginez vivant et qu'on parle de vous ainsi. Alors, allez, petit dialogue. Arnolphe, la promenade est belle. Agnès, fort belle. Arnolphe, oh, le beau jour. Agnès, fort beau. Arnolphe, quelle nouvelle. Agnès, le petit chat est vivant. Arnolphe, ah, c'est dommage, mais quoi, bon. Hein, on est tous là, et chacun pour soi. Chère Choupette, votre rôle est court, commence, se déroule, et se termine en coulisses. Mais quoi, vous connaissez l'adage. Il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits cachets. C'est donc une augmentation que vous désirez, pas un plus grand rôle. La plupart du temps, les rôles d'animaux sont joués par des humains, plus ou moins déguisés. Et là, le chat mort est joué par un chat mort. Ne vous plaignez pas, on parle de vous, vous existez. Tout mot ajouté vous dessert. On suggère, on ne s'étale pas. Arnolphe, la promenade est belle. Vous n'avez pas sorti de Choupette ? Agnès, fort belle. Non, Choupette est en dérangement, la diarrhée. Ah, Arnolphe, c'est le beau jour. Vous lui avez donné du charbon ? Agnès, fort beau, oui. Et de l'eau de cuisson, du riz blanc. Arnolphe, quelle nouvelle ? Ah ben, oh, le petit chat est mort, comme ça, subitement. Le charbon a été inopérant.
C'est une pièce.
Non, mais c'est une belle évolution. Ah non, mais il y a une belle évolution. Ouais,
l'acte ouais. 2, scène 5 va prendre des dimensions inattendues.
Peut-être auriez-vous préféré que la pièce s'appelât L'école des chats.
Ah.
Oui, Arnolphe. La promenade est belle. Oh, la grosse souris. Agnès, fort belle. Elle est pour moi. Arnolphe, le bon dîner. Agnès, fort beau. Ah, délicieuse. Arnolphe, quelle nouvelle. Laissez-moi un bout. Agnès, je vous donne la queue. Ah, Le petit chat était mort de faim, mais maintenant ça va mieux.
Burp, je vais être malade.
Arnold, c'est dommage, mais quoi? Le petit chat ne se nourrit pas de ce qu'il mange, mais de ce qu'il digère.
Ah. Mon Dieu.
Il y a un léger froid à la fin. Hein
mais oui, parce que...
Oui, c'est la morale.
Ouais. Ça me donne envie de le lire, moi.
Oui, ah, oui. Mais pas cette version-là, en tout cas.
Moi, je connais quelqu'un, on lui faisait jouer ce rôle.
De
la personne qui venait annoncer. Et il avait tellement de trac, il est arrivé, il a dit « Le petit mort est chat ».
Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment si rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa cibule? L'aventure était au coin de la rue. On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert. Quel était son manager? Oh, on nous casse tout, on ne dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est palisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Jacques Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Vous écoutez France Culture. Des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h59. Une nouvelle invention de Léonard. Retour aux maisons, palais réels ou de fiction qui trottent dans nos mémoires avec leurs belles images. Et pour finir, le DLA, un diagnostic à l'aveugle, posé par Lucas Fournier, un piège littéraire, avec les experts Patrice Minet, Val Massy, Jacques Vallée et Patrice Delbourg. Donc, qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard? C'est une série chronique imaginée par Jacques Jouet, pour nous raconter le petit Vinci, inventeur dès son âge tendre, dont les trouvailles ne laissaient pas sa maman de bois. Alors, après l'invention du tuyau d'arrosage la semaine dernière, un nouvel épisode, Jacques Jouet.
Qu'est-ce que t'as encore inventé, Léonard, mon petit Léonard? Eh bien, le couteau suisse. Le petit Léonard était parti en classe verte et linguistique dans le Jura suisse. Et il écrivait à sa maman qu'il aimait beaucoup. Voici sa lettre. « Ma chère maman, j'espère que tu vas bien et que papa ne fait pas de bêtises. Moi, ça va. Je suis arrivé dans le Jura, mais un peu tard. En effet, la malle-poste a cassé une roue et j'ai dû en urgence inventer le roulement à billes. Mais la réparation a pris pas mal de temps. Nous sommes arrivés à la nuit. La Suisse est très verte. Il y a des lacs et même de l'eau partout. Les tas de fumier sont taillés comme des cubes. Je suis dans ma famille, qui est très gentille. C'est une famille d'inventeurs. En tout cas, c'est ainsi qu'ils se présentent. Mais je dois dire que leurs inventions, qu'ils ne cessent de me vanter depuis 3 jours, ne sont pas du tout exceptionnelles. On se demande un peu à quoi elles servent. J'espère bien les étonner quand je serai vraiment acclimaté. Par exemple, ils ont inventé de chauffer, de broyer et de malaxer une espèce de fève que des voyageurs ont trouvée sur la côte des esclaves en Afrique. C'est amer. Ils disent qu'on peut le mélanger avec n'importe quoi et que ça rend très heureux quand on en mange un peu. J'en ai mangé beaucoup afin d'être très très heureux, mais j'ai eu mal au cœur et j'ai vomi sans discontinuer pendant 2 jours. Est-ce que c'est cela le bonheur, maman? Ils m'ont guéri, en me faisant manger du pain enrobé de fromage fondu dans un caquelon. Je t'en cuisinerai un kilo quand je serai rentré. Tu verras, ça fait une boule qui pèse sur l'estomac. Je ne dirais pas que c'est agréable, mais quand on fait du patin à glace ou de la planche à neige, on en met une sous chaque pied, ça permet de situer plus bas le centre de gravité et de se casser la figure moins souvent. D'autant que le temps de digestion de cette miche au fromage cuit se situe entre 2 et 3 jours, ce qui est parfait pour les compétitions d'endurance. Une autre de leurs inventions est étrange et je n'en comprends pas encore très bien l'utilité. Il s'agit de grands bâtiments impressionnants avec péristyle, dans lesquels sont entassés des coffres pour cacher, je crois l'avoir compris, de l'argent ou des pierres précieuses. Ces coffres sont attribués à des gens riches de toute nationalité qui déposent là leurs valeurs en toute confidentialité. Et quand on leur pose une question sur ces établissements, les autochtones répondent en mettant un doigt sur la bouche et font avec les lèvres un petit chuintement, un peu comme le fait une casserole au moment de bouillir et de soulever légèrement son couvercle. Ils appellent ça le secret bancaire. Et puis, s'ils n'ont pas inventé la clepsydre, je dois tout de même reconnaître qu'en matière de calcul du temps qui passe, les gens de la ville voisine, de la Chaux-de-Fonds, ont une avance considérable sur nous. Non seulement ils ont imaginé de mettre 2 aiguilles aux horloges au lieu d'une, ce qui permet de désigner le passage du temps minute par minute et non plus seulement heure par heure, mais en plus, leur recherche en miniaturisation des systèmes est d'une délicatesse qui m'a laissé confondu. J'en viens maintenant, puisque classe verte il y a, aux travaux des champs. Et là, quelle n'a pas été ma stupéfaction de découvrir leur outillage et de trouver enfin un terrain d'invention à ma portée. Figure-toi, ma chère maman, et pas un mot à papa à qui cette information pourrait donner des idées particulièrement désastreuses. Figure-toi que les travailleurs des champs et des jardins ont à leur disposition une espèce de monstre de multi-outils, un seul, d'1,50 m de longueur environ, qui fait à la fois taille-haie, bêche, binette, faux, faucille, sécateur, scie égoïne, tronçonneuse, plantoir, j'en passe et des meilleurs. Chaque outil peut être déplié, sorti du corps central en bon chêne à la demande, tout en y restant fixé à sa base. Le problème est que je n'ai pas réussi à le soulever, quant à moi, lorsqu'il s'est agi que je travaille au champ. Il faut pour manier cet outil des montagnards de 200 livres, costauds comme des géants et forts comme des orignales, et non pas des petits Italiens comme moi, musclés comme une bête d'orage. Ils se sont moqués de moi assez gentiment, je dois le reconnaître, mais tout de même, ils m'ont vexé. Alors tu me connais, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, j'ai fait marcher ma petite tête de Léonard, ton fils. Comme j'avais depuis longtemps observé qu'au moment de la pause de midi, mes bons colosses jurassiens, avec leur tête d'être sortis du Jurassique, mangeaient avec les doigts, coupaient le saucisson et débouchaient les bouteilles avec les dents, se brossaient ces dernières avec l'index, se couper les ongles en se les rongeant avec les canines et tout à l'avenant, je me suis pensé que je pourrais mettre au point sur le modèle de leur outillage agricole multifonction un mini couteau qui tiendrait dans la main et qui serait doté non seulement de plusieurs lames, mais encore repliable en son sein d'une petite paire de ciseaux, d'un cure-dent, d'une brosse à dents, d'une lime, d'une vrille pour arracher les bouchons de liège, d'un simple décimètre et d'un mini pied de biche. Il me semble qu'en l'honneur de mes hôtes qui ne m'ont pas ménagé les compliments, il ne serait que justice de nommer cet objet un couteau suisse. Je vais rapporter le prototype à la maison en espérant qu'il te plaira et qu'il permettra à papa de ne plus se curer les dents avec sa faucille. Léonard, ton fils affectionné.
Oh, c'est une charmante lettre de vacances. On aimerait tous recevoir ce genre de lettre, non, Gérard Mordillat?
Ah, bah oui, on aimerait surtout avoir inventé soi-même le couteau suisse.
Ah,
et voilà. Encore mieux, le couteau sans manche auquel il manque une lame.
Oui, c'est peut-être plus dans nos compétences.
Absolument.
Un petit bout de la bande originale de 8,5 de Fellini. Et un regard dans le rétro pour des souvenirs de maisons et autres châteaux merveilleux ou angoissants, des demeures réelles ou fictives, souvenirs de lecture, vus dans les musées, au théâtre, au ciné ou dans la vraie vie. Mais attention, pas de maison d'enfance, Ne pas attendre de confidences trop personnelles dans cet inventaire. Nos papous, Odile Conseil, Jean-Bernard Puy, Ricardo Mosner et Lucas Fournier sont du genre pudique. Alors après, la Maison Bleue, le 10 Downing Street, la maison de Hansel et Gretel, celle de Malaparte dans Le Mépris de Godard, j'en passe. Eh bien, on boucle la boucle d'abord avec vous, Lucas Fournier.
Il y a une maison que j'aime beaucoup, c'est la maison de Sherlock Holmes à Baker Street, à Londres, au 221B, chez sa logeuse Madame Houston. Parce qu'on sait que la véritable adresse de Sherlock Holmes est au 111 Baker Street, mais que Watson a fait exprès de ne pas nous révéler cette adresse, d'où ce 221B. Et pourtant, dans ce musée Sherlock Holmes, qui est aussi un pub, on sent, on sait que son âme, indéfinissablement, est là, je devrais dire même élémentairement.
Odile ?
Alors, une maison célèbre aussi de la littérature, c'est l'Aiguille creuse d'Étretat. C'est le summum de l'originalité immobilière, qui est un phare par sa forme et sa situation, mais un phare inversé par sa destination, puisqu'il n'éclaire pas, au contraire, il cache. Donc dans la dernière pièce de cette aiguille creuse, tout en haut, vue sur mer de tous les côtés, il y a des espèces de meurtrières, des aménagements luxueux et un hôte de charme, donc Louis Valméras, alias Raoul d'Andrézy, Jean Daspry, Désiré Baudru, le chevalier Floriani et quelques dizaines d'autres noms d'emprunt d'Arsène Lupin. Quand vous en parlez avec un lupinologue, il vous affirme avec un air légèrement réprobateur que certains individus peu éclairés ne croient pas que l'aiguille est creuse.
Oui, mais il y a toujours des fous partout. Hein. Il y en a. Jean-Bernard Puy.
Le fort de Sarah Bernard à Belle-Île.
Ah oui.
Qui est moche, inhabitable, inconfortable, inaccessible, mais qui est en plein vent, à la pointe des Poulains, planté au milieu des genêts, bruyères, à Cant et Pourpier, un des plus bels endroits du monde.
C'est vrai, bah vous donnez envie d'aller voir, justement.
Oui, vous n'y rentrez pas dedans, parce que sinon vous allez attraper une maladie, mais sinon, de dehors, c'est très beau.
Ricardo ?
Les décors qui m'a le plus marqué, c'est évidemment celui du film Métropolis de Fritz Lang. Alors, quand à travers les verrières de mon atelier, je vois toute cette construction hideuse qui pousse comme des champignons, je me dis, peut-être un jour, on les aimera comme j'aime les immeubles impressionnistes de Métropolis.
C'est possible. C'est possible. Lucas Fournier, une dernière demeure.
Oui, une dernière demeure, non.
Non, enfin, pas la vôtre, je n'ai pas demandé la vôtre.
Mais si, vous l'avez bien senti, parce que c'est effectivement une dernière demeure. C'est le château du film Le Baron Fantôme. Merci de ce commentaire.
De
un film de Serge de Poligny, sorti en juin 1943. Donc beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Ouais. Dialogue de Jean Cocteau avec Odette Joyeux. Alain Cuny, c'est à peu près pareil, et Jean Cocteau soi-même. Donc un terrifiant et romantique château dont les portes grincent et où la nuit, le lugubre baron se promène endormi en emportant les statues de pierre de ses grands couloirs. Beaucoup plus énigmatique que le château de la Belle et la Bête, qu'on verra seulement en 1946. Des souterrains, des cadavres momifiés, vous aviez raison, des oubliettes, des cachots, des corbeaux. La plus grande terreur de mon enfance, c'est pour ça que je suis allé voir la maison de Freud à Vienne.
Pas hanté, mais très très occupé, un immeuble qui est celui de la vie mode d'emploi.
Oui.
Alors je me souviens qu'il est grand, je me souviens que Perret qui progresse d'appartement en appartement, d'étage en étage, selon la règle du cavalier, du jeu d'échecs je crois. Je me souviens qu'il y a des chambres de bonne, et la provinciale que j'étais en lisant ce livre rêvait devant ces couloirs où se succédaient les chambrettes. Mais c'est surtout la couverture de l'édition de poche, qui est un dessin qui montre un immeuble en coupe, avec les occupants des différents appartements, qui matérialise l'immeuble et qui m'a permis à moi de l'appréhender vraiment comme un tout. Alors, recherche faite, ce dessin, vous vous posez tous la question, il est signé d'un certain Bertal, gravé par Lavielle, intitulé « Coupe d'une maison parisienne le 1er janvier 1845 ».
Vous saviez ça, vous, Jean-Bernard ?
Pas du tout.
Quelle culture, hein ?
Tout le monde ici. Aurait aimé acheter cette merveilleuse maison à la dérive qu'est la Cerisaie de Tchaïkovski.
Ah oui.
Alors on n'en sait pas beaucoup, hein.
Non.
Tous les personnages de la pièce admettent qu'il faut s'en séparer,
oui.
Mais personne ne s'y résout vraiment. Il devait donc y avoir une formidable grâce dans cette propriété, et pas seulement à cause des cerisiers en fleurs du jardin. C'est pas la peine de me regarder comme ça. On a le droit d'être romantique.
Thank you.
Zou, bisou, bisou. Zou, bisou, bisou. Zou, bisou, bisou. Zou, bisou, zou, bisou. Means that I love you. Zou, bisou, bisou. Zou, bisou, bisou. Zoo-bee-zoo-bee-zoo, zoo-bee-zoo, zoo-bee-zoo means that I love you. Zoo-bee-zoo-bee-zoo, zoo-bee-zoo, zoo-bee-zoo means that I love you. Zoo-bee-zoo-bee-zoo.
Elle l'a dit, Sophia Loren. Dernière séquence papou du jour sur France Culture, le DLA. Au diagnostic à l'aveugle, le poseur de pièges littéraires, c'est Lucas Fournier. Il lit beaucoup, Lucas, et dans tous les genres, et il a extrait pour nous aujourd'hui, dans un de ses livres ou ailleurs, une vingtaine de lignes à soumettre anonymement à l'expertise de quatre spécialistes, Patrice Delbourg, Eva Almassi, Patrice Minet et Jacques Vallée des Pointures. Leur mission, en trouver l'auteur avec des arguments littéraires, s'il vous plaît. En cas d'erreur, eh bien, ils seront tous au second tour, les Vénards, avec un choix entre trois noms, que leur offrira Lucas Fournier des noms écrits à l'avance et non pas en fonction de la discussion. À ce jeu, nos quatre experts parfois ont gagné, le plus souvent perdu, mais c'est pas si grave. De toute façon, il n'y a rien à gagner, si ce n'est l'admiration de tous, qui n'est pas si mal d'ailleurs. Certains tueraient pour ça, être admirés. Lucas Fournier, c'est à vous, on vous écoute lire le petit bout de littérature que vous avez choisi.
Elle ruisselait toute cette belle jeunesse. Elle allait et venait devant sous les yeux de tulipe, bien pimpante, allègre, le jus de la terre, la semence du globe, le grain qui ne meurt avec son sang boueux, infecté, souillé depuis des siècles par tout ce qui ne s'est jamais fait de mieux comme microbe, comme pourriture, comme infection. Une sélection magnifique, un choix formidable, une culture unique, rien que des perles, au choix, sur choix, entrée libre, sortie gratuite, le grain qui ne crève, avec sa solide décharge, sa belle cargaison de chromosomes détraqués, complètement maboule, pourri jusqu'à l'os, resquilleur, patibulaire, que bien il tient, que jamais il ne lâche, le grain qui lève partout, aux chiottes, aux cloques, dans la boue, dans la peste, dans la guerre, dans la famine, dans le feu, dans le sang, dans la haine, dans la mort, n'importe où. N'importe comment, dans n'importe qui, en 9 mois, une, deux, gauche, gauche, le tout beau, le rude gaillard, le cerdant, le crispe les fesses, le malheureux petit enfant de putain, démerdard, pieux conservateur du troupeau galeux en éternelle balade, le famélique à travers millénaires, elle grouillait devant Tulipe, la meute enragée lui crevant le tympan de ses vagissements. Derrière venait la maman, la sainte, le très doux symbole. Elle portait un gosse sous chaque bras et un troisième dans son ventre, lequel était gros.
Alors je précise pour les auditeurs que ce texte est truffé de points d'exclamation, ce qui est tout de même une grosse indication de quelque chose. Une première impression, Patrice Delbourg.
Ah, moi, ça me ravit.
Oui, j'imagine.
Bah oui, ça me ravit, cette espèce de crispation célinienne, cette écriture saccadée, l'utilisation de mots comme maboule, cerdant, crispe les fesses, c'est magnifique. Ah non, ça me va comme un gant de pécari, hein. Je suis ému, donc je passe la parole, j'y reviendrai, mais j'adore ce genre de texte. Ça nous change un peu de certains autres qu'on devrait nommer.
Eva Almassi, votre sentiment ?
J'aimerais vraiment savoir qui est Tulipe. Est-ce que c'est une vache ? La vache Marguerite ? Appelée pour une fois Tulipe ? Parce que c'est devant Tulipe que tout ça se déroule.
Oui.
Et je ne sais pas qui c'est comme témoin que cette Tulipe-là.
Vous avez une idée de qui est Tulipe, Jacques Vallée ?
C'est une jeune fille.
Jeune fille, voilà, même pas jeune femme, jeune fille.
Oui, une jeune fille.
Très
une
jeune.
Fille, une fillette. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est cette répétition qui revient sans cesse et qui ressemble à un titre de roman. Si le grain ne meurt, le grain qui ne crève, le grain qui se lève, c'est un piège. Donc c'est quand même assez curieux que le titre d'un roman soit presque 3 fois cité dans cet extrait. Je me demande si c'est fait exprès ou pas.
Lucas Fournier a cherché cet extrait très très longtemps, justement, pour nous piéger. Patrice Une première impression.
C'est le genre de texte qui me plaît parce que, vous savez, c'est des textes qui sont plaisants à interpréter parce qu'ils sont porteurs. Mmh. Elle ruisselait, toute cette belle jeunesse, elle allait et venait devant, sous les yeux de Tulipe, bien pimpant, etc. Vous voyez, c'est très...
Les mots vous portent.
C'est très tonique, oui.
Ouais.
C'est très joli.
Patrice Delbourg, est-ce que c'est écrit en français ou est-ce que c'est une traduction ?
Non, non, c'est écrit en français. C'est écrit directement dans la langue de, disons, de Flaubert. Alors, bon, là déjà, il y a le choix entre le... Bon, c'est le texte sur la guerre, sans doute la première, celle de 14, donc c'est un texte soit ceux qui ont vécu la guerre, et là il y a 4-5 grands auteurs qui racontent leur guerre, qui racontent les tranchées, qui racontent les poilus, la douleur, la mitraille, etc. Mais là il y a quand même une distance un peu humoristique, un peu espiègle, comme ça, avec Maboule, avec Tulipe, enfin bon, le gars est un petit peu sur les marges, on a l'impression qu'il est un peu à l'arrière. Donc, je dirais que c'est un écrivain qui a fait la guerre, mais pas trop.
D'un peu loin.
Ouais, d'un peu loin. Et ça, c'est important dans les noms que l'on va pouvoir donner, parce que, bon, c'est quelqu'un qui se frise un peu les moustaches et qui a le temps de soigner son vocabulaire pendant que les autres se font tuer au front.
Mais lui, il est un peu protégé, quoi.
Peut-être.
Ouais, Eva ?
Pour moi, c'est pas forcément la guerre, c'est tout simplement quelqu'un qui n'aime pas trop l'humanité, qui trouve qu'on est trop nombreux et qui reproche ça aux chromosomes. Et puis à la maman qui a fait 3 enfants à la fin, qui en a déjà sous chaque bras et en plus dans le ventre. Et moi, je pense que à la guerre de 14, on songeait pas aux chromosomes, on songeait à la survie et pas du tout à la surpopulation. C'est
alors,
le contraire.
Donc, vous datez le texte de Philippe Hocbeau
de plutôt même après les années 40, c'est le
à cause
peut-être
des chromosomes.
Années 50. Les chromosomes, on les connaissait. Oui, et même mais... l'ADN, c'est 55 ou 56, la découverte de l'ADN. Donc, c'est pas à cause de ça, c'est le style. Aussi des merdards, c'est pas étendard, hein, c'est des merdards. Et puis à travers les millénaires, c'est en éternelle balade, c'est-à-dire on en est encore.
Bon, Jacques Vallée, ça pourrait être une traduction ?
Je ne pense pas, je pense un peu comme Patrice que c'est quelqu'un qui n'est pas méchant, qui n'est pas furieux. C'est quelqu'un qui laisse passer une certaine tendresse dans ce texte. C'est pas le fou furieux à la Céline, malgré les... il manque les petits points. Mais c'est pas quelqu'un de méchant. Et c'est, par exemple, il dit « Derrière venait la maman, la sainte, le très doux symbole. » C'est tout d'un coup, il s'attendrit sur le... après s'être mis en colère.
Et... C'est peut-être un peu ironique, non ?
Non, pas... Enfin, de la façon dont c'est dit, ça peut être ironique, mais c'est les termes qu'il choisit. Il y a une sensibilité. Et puis, moi, je suis d'accord aussi que c'est quelqu'un qui a fait la guerre parce qu'elle est omniprésente dans la famine, dans le feu, dans le sang, dans la haine, dans la mort. Une, deux, gauche, gauche. Si ce n'est pas du militaire, il faudrait me changer.
T'incorporer.
Il faudrait m'incorporer. Donc,
on dit gauche, droite, non, quand on est militaire.
Gauche, je sais pas, gauche.
Toujours, on dit que gauche. Vous me dites ça, vous n'avez pas fait votre service militaire,
non,
miné.
Mais on dit une, deux, gauche, gauche, oui.
Bon, d'accord. Et ça pourrait pas être une femme, Patrice Minet ?
Une femme qui aurait fait la guerre de
14 ? Non, mais ah bah, oui, il y en avait. Hein. Dans les ambulances.
Ah, les ambulancières, il y en a eu une belle.
Bien sûr.
Mais il n'y en a pas eu tant que ça.
La reine Elisabeth.
Mais bien sûr que ça pourrait être une femme. Est-ce que c'est une femme qui a écrit ce texte ? Je ne sais pas.
Le
premier réflexe, c'est de se dire que c'est un garçon qui a écrit ça, quoi.
Bah, c'est un peu la facilité, quoi.
Oui, oui, oui. Moi, je choisis toujours la facilité.
Bon, je change de sujet. Alors, on est à peu près d'accord sur l'époque. Enfin, c'est entre la guerre de 14 et les années 50 pour Eva. Vous n'avez pas parlé de l'époque vraiment, Patrice Minet.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a lu Céline.
Oui.
Mais qui... Les trois petits points, il y a beaucoup de textes de Céline où il n'y a pas les trois petits points, hein, je voulais vous le dire.
Oui.
Il ne faut pas non plus caricaturer.
Céline, c'est tellement le premier mot qu'on note.
Qu'est-ce qu'elle notait
sur
sa feuille, d'ailleurs.
C'est notre axe, voilà.
Mais il faut peut-être chercher plus loin. Ou alors, le piège, c'est que c'est vraiment du Céline.
Oui, ça sera un piège qui... Mais vous voyez, il y a quand même une telle intention... satirique.
Ouais.
Et en plus, il y a de la progression pour faire rire. Vous voyez, il dit une, deux, gauche, gauche, le tout beau, le rude gaillard, le serre les dents, le crispe les fesses, le malheureux petit enfant de putain des merdards. pieux conservateur du troubeau galou. Vous voyez, il y a des espèces de chutes dans le texte. C'est pour ça que derrière venait la maman, la sainte. Pour moi, c'est une blague. Hein. Arrive la Madone avec ses trois mômes.
Trinité.
Il y a un côté.
La Madone avec la sainte.
Il y a une forme de harangue dans le texte aussi. Ouais, Et vous verrez par ici, et vous verrez par là, et vous verrez ces trois malheureux, et vous verrez ces imbéciles. Vous voyez, approchez.
Moi je trouve ça très émouvant. Je trouve que il y a une émotion dans la façon dont c'est écrit.
Mais Jacques Vallée, dès qu'il voit une femme enceinte, il est ému de toute
non,
façon,
c'est pas
il
ça,
est
c'est
touché. Pas... Alors, il a écrit sur le sujet d'ailleurs.
C'est une espèce de défilé ou alors rêve des troupes. Hein. Pourquoi c'est devant Tulipe encore une fois et comment arrive la maman là-dedans?
Est-ce que c'est la maman de Tulipe?
Je ne vois pas, non, je ne vois pas la scène. Je vois très bien quelqu'un qui est la belle jeunesse, peut-être, dont on fera de la chair à canon, d'accord. Oui. Mais je ne vois pas la situation.
C'est les gens de la guerre est déclarée, c'est tout le monde qui sort dans les rues et qui sont entraînés derrière, avec un enthousiasme très grand, parce qu'ils étaient sûrs d'être à Berlin en deux jours.
Et celui qui observe, c'est qui alors? Il est le rescueur en premier, le démerdard number one.
Oui, mais comme on a coupé des phrases avant et des phrases après, je crois que c'est indiqué la personne.
En tout cas, il n'a aucune solidarité avec les autres, ça c'est certain. Aucune.
C'est gentil, Jacques Vallée, d'expliquer le jeu à Eva Almassi. On réécouterait volontiers ce très beau texte.
Alors, sans l'interprétation qu'aurait pu en faire Patrice Minet, si théâtrale, donc je la ferai à plat. Elle ruisselait toute cette belle jeunesse, elle allait et venait devant, sous les yeux de tulipes bien pimpantes, allègres, le jus de la terre, la semence du globe, le grain qui ne meurt avec son sang boueux, infecté, souillé depuis des siècles, par tout ce qui ne s'est jamais fait de mieux comme microbe, comme pourriture, comme infection. Une sélection magnifique, un choix formidable, une culture unique, rien que des perles, au choix, sur choix, entrée libre, sortie gratuite, le grain qui ne crève, avec sa solide décharge, sa belle cargaison de chromosomes détraqués, complètement maboule, pourri jusqu'à l'os, resquilleur, patibulaire, que bien il tient, que jamais il ne lâche, le grain qui lève partout, aux chiottes, aux cloques, dans la boue, dans la peste, dans la guerre, dans la famine, dans le feu, dans le sang, dans la haine, dans la mort, n'importe où, n'importe comment, dans n'importe qui, en 9 mois. Une, deux, gauche, gauche. Le tout beau, le rude gaillard, le cerdant, le crispe les fesses, le malheureux petit enfant de putain des merdards, pieux conservateur du troupeau galeux en éternelle balade, le famélique à travers millénaires. Elle grouillait devant Tulipe, la meute enragée, lui crevant le tympan de ses vagissements. Derrière venait la maman, la sainte, le très doux symbole. Elle portait un gosse sous chaque bras et un troisième dans son ventre, lequel était gros.
C'est presque comme du Woody Allen avec les spermatozoïdes, où je pense à Malaparte dans La Peau, oui. Où il y a la jeune fille innocente et en fait elle est vierge, mais tout le monde peut la toucher, puis son amoureux lui crève l'hymen. C'est peut-être Tulipe, la future maman, et c'est tous les hommes qui pourraient la féconder, puisque l'humanité qui existe depuis des millénaires, et voire plus, veut se perpétuer.
Bon, c'est une théorie, Patrice Delbourg. Ça appartient à quoi, ce petit texte, ce petit extrait?
Ça appartient à un roman.
Ouais.
Ça appartient à un récit de bonne teneur, 200-250 feuillets. Là, la cargaison de chromosomes détraqués, c'est sûr que pour la guerre de 14, ça me paraît un peu juste quand même qu'on puisse utiliser ça. Je pense que c'est un peu plus tard. Alors, c'est un texte qui a quand même des facettes, parce que ça commence un petit peu avec des sentiments patriotes, cocardiers, chauvins, le grain, la terre, des choses même pétainistes un petit peu. Dans les 3-4 premières lignes, hein, on est quand même vraiment dans l'exaltation de la terre, de l'humus, du compost, alors on est chez Peggy, etc. Ouais. Ensuite, on part vers quelque chose de plus militaire, plus grinçant, plus humoristique, et ça se termine de façon plus romantique. Donc, c'est un texte très riche, mais je crois que l'énigme du texte nous est donnée par le choix de l'héroïne.
Tulipe.
Oui. Parce que les grands écrivains de la guerre, Sandrard, Barbus, Genevoix, n'auraient pas appelé leur personnage Tulipe. Donc, c'est quelqu'un d'un petit peu décalé, un peu plus tard, un peu plus ironique, un peu plus humoriste, un peu plus fantaisiste, qui a relu qui a relu sa guerre ou la guerre que lui racontait son père.
Ouais.
Parce que Tulipe, c'est quand même très particulier.
C'est vrai, vous êtes d'accord, Jacques Vallée ?
Oui, je pense que le nom de l'héroïne peut faire trouver l'auteur.
Oui.
Et vous l'avez trouvé ?
Oui, mais je voudrais avant faire une remarque. Il prononce Cerdan comme si c'était le boxeur. Il faut dire aux gens que ce n'est pas une indication d'époque.
Non, c'est un Cerdan.
Donc à un moment, j'ai pensé que ça pouvait détourner les auditeurs.
C'est un texte d'Édith Piaf.
Ça correspond à la mort de Cerdan.
Allez, des noms. Jacques Vallée.
Vous me l'avez demandé, je vais dire Marcel Aimé.
Ah oui.
Oui.
Donc écrit plutôt dans les années 50-60.
Je sais pas, c'est peut-être un œuvre de jeunesse, c'est peut-être une nouvelle, c'est peut-être dans un roman. Je n'ai pas toute l'œuvre de Marcel Aimé.
Un Marcel Aimé, un Eva Almessi. Je n'ai aucune idée. À part, vous m'avez mis la petite graine dans la tête de la guerre. Alors à chaque brave soldat Schweik, mais alors. J'ai noté Jean Genet, mais pour la grossièreté, mais en même temps, il n'y a pas des points d'exclamation comme ça, en veux-tu, en voilà, il y a beaucoup plus de poésie. C'est peut-être un texte totalement parodique,
Ça pourrait être un humoriste qui écrit ça?
Parce que non, c'est, enfin, parodie, une partie de roman.
Alors que lui non, aussi, mais
non, je prends plutôt que non, mais sans du tout de conviction. Alors ça, vous entendez dans ma voix.
Que nous, c'est une bonne idée. Que nous, oui, peut donner Tulipe comme prénom.
Oui,
parce que c'est bien sûr.
Et alors, selon vous, Patrice Delbourg, Tulipe, ça appartient à quel écrivain?
Bah, il a donné le nom de Cerise, il a donné le nom d'Amandine dans ses romans, donc je dirais René Fallet.
Ouais.
Comment fais-tu l'amour, Cerise?
C'est cela.
Le triste, c'est un vers de René Fallet.
Et ce serait dans quoi, chez Fallet?
Ça serait dans un de ses romans où il raconte sa guerre. Hein. Il en a vécu, et puis sa famille en a vécu. Et puis, sortie gratuite, sur choix, un côté fête foraine, une jovialité, le crisp les fesses, il a aussi des formules un peu à la Brassens, un petit peu comme ça.
Oui, mais c'est très juste ça.
Et pour vous, Patrice Minet?
Il y a un nom qui a été cité, et effectivement, c'est un écrivain un petit peu libertaire, qui ne peut jamais s'empêcher d'essayer de nous faire rigoler, même en racontant des horreurs ou des choses très sèches. Et moi, Marcel Aimé me plairait bien.
C'est le choix de Jacques Vallée.
Hein. Ouais. Il y a en plus aussi une sécheresse dans le style que j'aime bien. C'est frappé en médaille, c'est bien.
D'accord, oui, Patrice Delbourg.
Oui, j'ai un remords parce qu'il y a un auteur. Il a publié un seul roman qui est magnifique sur la guerre, sa guerre. C'est un proche de Fallet, etc. C'est Michel Audiard.
Oui, on y pense aussi.
Et Michel Audiard aurait pu écrire ça dans ce livre. Bon, il y a vraiment ce goût du dialogue, cette espèce de crépitement du mot. Bon, ça pourrait être Audiard aussi, mais bon.
Bon, Lucas Fournier, vous avez un joli choix. Jacques Vallée opte pour Marcel Aimé, Eva Almessi pour Raymond Queneau, Patrice Minet pour Marcel Aimé, peut-être influencé par Jacques Vallée, mais...
Oui,
Oui. Et Patrice Delbourg, il a deux noms, René Fallet, et puis Michel Audiard. Alors, dans votre liste de trois, est-ce qu'un de ces noms figure?
Malheureusement, non,
mais
un des noms qui figure dans ma liste a été prononcé tout à l'heure.
Ah bon?
Par quelqu'un, oui.
Céline?
Je vais vous proposer donc trois noms,
oui.
Dans l'ordre alphabétique, Albert Cohen, Romain Gary et Guzio Malaparte.
Ah, Eva a parlé de Malaparte.
Oui.
Bien, Albert Cohen, Romain Gary et Malaparte.
Des écrivains quand même tous un peu conséquents.
Conséquents.
Absolument, oui. Qui veut se prononcer? Oui.
Moi, je me lance à l'eau, je choisis Malaparte.
Malaparte, mais vous n'y aviez pas pensé du tout à l'heure.
Non, pas du tout, mais parce que je n'ai pas
pensé. C'est pas dérangeant, hein.
Ben non, mais c'est pas. Je n'ai pas pensé que c'était une traduction, et donc ça peut être Malaparte parce qu'il a ce côté vif et il a ce côté saccadé dans l'écriture. C'est un journaliste, et je le vois très bien décrire une population qui tout d'un coup se met à la fenêtre ou sort dans les rues pour suivre un cortège ou quelque chose comme
et
ça.
Et alors, la traduction de tulipe, ce serait quoi?
Je ne sais pas. Oui, mais pourquoi pas.
Eva Almassi, vous aviez prononcé le nom de Malaparte.
Mais donc, alors, je vais le garder, tout en pensant que Romain Gary pouvait, puisqu'il peut tout, il est tout à fait capable de nous faire ça. Albert Quen, vraiment, je ne pense pas, j'espère pas, je le vois pas du tout lâcher des mots comme ça. Il y mettrait tellement d'ironie et de distance, même dans Mange-Clou, des choses comme ça, des grosses farces. Il y a toujours plus de miroitement de lumière, quoi. Et des petits oiseaux qui chantent derrière.
Patrice Delbourg.
Oui, il y a... Donc, Caput, La Peau. Les livres de Malaparte sont des livres de guerre, mais je les ai pas bien présents à l'esprit, j'avoue. Mais je le vois pas quand même. Le crispe des fesses, le risquilleur, le patibulaire, non. Non, c'est le prénom. Le prénom me guide. Tulipe, Romain Gary peut tout faire, mais je pense pas qu'il puisse donner ce prénom-là. Non, je crois que c'est Cohen. Je ne sais pas où, mais je dirais Albert Cohen.
D'accord. Et Patrice Minet, alors, qu'est-ce qu'il dit?
Ah ben moi, je dis, en fait, l'histoire de la traduction, j'y ai pas pensé non plus.
Non, personne, je vous rassure. Non.
Et le serre les dents et le crispe les fesses, qui me font penser un peu à une traduction. C'est-à-dire que ce n'est pas des locutions qu'on trouve vraiment habituelles en français. Et peut-être que c'est une indication. Oui. Et c'est pour ça que je prendrais Malaparte. Oui. Mais pour le reste, je ne vois pas Albert Cohen écrire ça et Romain Gary non plus.
Alors, Lucas Fournier, il n'y a aucun choix pour Romain Gary. Tant pis. Un Albert Cohen, c'est Patrice Delbourg qui y croit un petit peu. Et trois Malaparte pour Eva Almassi, Jacques Vallée, Patrice Minet. Et donc, le verdict.
Je voulais vous dire que tout ce que vous avez dit était parfaitement exact et étonnamment précis, mais surtout totalement prémonitoire, puisque le roman a été écrit en 1934 par un auteur qui avait 17 ans et demi. Et qui s'appelait Romain Gary. Ah. Et tout ce que vous avez raconté, c'est en quelque sorte l'anticipation de sa vie future. Il aime la guerre, il se frise la moustache, il est cocardier, il est tendre, etc. Donc c'est le premier roman de Romain Gary qui s'appelle Le vin des morts, des morts M-O-R-T-S, qui n'a jamais été publié, qui a été refusé par tous les éditeurs, parce qu'il y en a 180 pages à peu près de cet acabit.
Ah oui, il se passe rien.
Il se passe tout ça. Ce sont des vomissements, des fornications, enfin tout ce qu'on veut. Il est cité par Myriam Anisimov dans Le Caméléon, qu'elle raconte. Donc personne n'a voulu de ce livre. Et ce qui est curieux, c'est que 3 ans après, il a publié un autre livre qui portait le même titre, Le vin des morts, mais qui était un autre roman. Donc c'est son tout premier roman absolu.
Formidable.
Et on voit quand même une certaine maîtrise. Et tout ce que vous avez dit sur Romain Gary était absolument vrai, quoi.
Oui, sauf qu'il ne parlait pas de Romain Gary.
Non, il ne parlait pas de lui, mais sans le savoir, ils avaient déjà anticipé quelle serait sa vie, rien qu'en lisant ce texte, comme des chiromanciens littéraires. C'est formidable, ça.
Ah, bah, tu nous as bien eu.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Jason Taous. À podcaster sur franceculture.fr. Pour les remarques et autres questions, direction la rubrique commentaires tout en bas de la page des papous après la pub. Sinon sur notre page Facebook où nous échangeons entre amis. On se retrouve dimanche à 12h50. Au revoir. Passez un délicieux après-midi à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en très bonne compagnie.
Quoi?